I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Patrick Peloux. Vous le connaissez sûrement pour différentes raisons, son alerte lors de la canicule de 2003, ses chroniques dans Charlie Hebdo, ses livres ou encore ses prises de parole après les attentats de janvier 2015. Dans cet épisode, je voulais pas parler de Charlie Hebdo, je voulais savoir comment on développe l'instinct de vie dont il parle dans son dernier livre. On évoque son parcours, plein de rebondissements, ce qu'il pousse à avancer quotidiennement et ses méthodes pour se reconstruire quand tout va mal. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou SoundCloud en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément. Bonne écoute.
On a commencé.
On a commencé. Ça enregistre.
En fait, si tu veux, c'est ça qui m'a plu dans... Comment on dit, c'est un blog?
Un podcast.
Un podcast dans ton podcast, c'est que... je finissais médecine en 94, je passais ma thèse et j'avais fait des stages parce qu'à l'époque, quand tu faisais médecine générale, tu pouvais aller dans les services des urgences, ce qui n'est plus le cas maintenant. Enfin, c'est très rare, c'est très compliqué maintenant pour les jeunes d'aller dans des services des urgences et dans des SAMU, ce que je trouve absolument lamentable.
Pourquoi c'est compliqué maintenant?
Parce que la médecine générale est devenue une spécialité, donc tout le monde, si tu veux, le monde de la médecine est un monde de castration. C'est-à-dire, le truc, c'est pas... On vise pas l'épanouissement des étudiants en médecine. Les facultés de médecine font tout pour faire un cheptel de professeurs universitaires. Alors que les universités devraient créer le plus grand nombre de médecins et épanouir les gens. En fait, je crois que vraiment les études de médecine, c'est une usine à créer des névrosés. Mais bon, mais les médecins sont super. Ils résistent. Ils ont un pouvoir de résistance important par rapport à cette oppression, intellectuelle. Qui les stérilise. Et donc là maintenant avec la médecine générale, ils veulent limiter les stages à la médecine générale, donc limiter les stages aux urgences et aux SAMU, ce que je trouve regrettable parce qu'il faudrait justement qu'un médecin qui a envie de faire des trucs, ça soit la liberté et la conquête, l'universalité de l'université. Bon, c'est un autre sujet. Donc moi j'étais en 94 et en fait je me passionnais pour les urgences. J'avais chopé ce... au cours de mes études médicales, et je crois que c'est ça qu'il faut dire à ceux qui débutent dans les études médicales, c'est que c'est des études qui sont très longues et c'est des études où tu rencontres. Et en fait, ça sert à rien de commencer ces études de médecine en disant « je serai chirurgien de la main ».
Parce que de toute façon, les expériences que tu vas avoir vont te
faire... C'est des rencontres. Tu vas rencontrer, puis un jour, tu sais pas pourquoi, tu vas rencontrer un néphrologue... fantastique, tu vas te passionner pour le rein, tu vois. Bon, c'est ça. Et je crois vraiment que pour moi, les études de médecine, c'est des études de liberté. Or, à l'heure actuelle, toutes les institutions et tous ceux qui s'occupent de machin limitent les choses. Il y a, c'est très castateur. Bon, bref, moi, je me suis retrouvé. En 94, j'avais
fait une thèse sur les conséquences du verglas et
les arrivées en excès, en urgence.
Déjà sur le climat, c'est ça qui était drôle. Je suis toujours passionné pour la théorie des climats de Montesquieu. Je trouvais que c'était d'une intelligence.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie?
En fait, que le climat influence les gens. Il avait fait un texte en se disant, c'est marrant, les gens qui sont au soleil, ils ont l'air quand même plus heureux que... tu vois, donc d'un coup, il y avait des... Lumineux. Et donc, j'étais à Saint-Antoine, et en fait, à l'époque, ils recrutaient des jeunes pour travailler aux urgences parce que tu avais eu un rapport en 88, dit le rapport Steck, qui avait dit, mais c'est n'importe quoi, parce qu'en 88, jusqu'en 88, on mettait les étudiants en médecine aux urgences. C'était hier. T'étais tout seul. T'étais étudiant en médecine, t'étais tout seul avec les infirmières. C'est là où, si tu veux, faut rendre hommage aux infirmières. Le nombre d'infirmières qui ont appris aux médecins à suturer, à faire un pansement, à s'occuper des malades, c'est considérable.
C'est pas rassurant pour les types qui arrivaient aux urgences.
Parce que les infirmières sont hyper compétentes. Donc elles avaient une pratique, elles savaient parler aux malades, elles savaient parler à un mec bourré. T'as aucun personne dans les études de médecine t'explique comment parler à un mec bourré.
Pourtant, ça doit être plus fréquent.
C'est la France boit. C'est, j'ai l'habitude de dire, la moitié de la France boit, l'autre moitié devrait. Bon, tu vois, c'est ça le truc. Et donc j'avais mon chef de service des urgences Saint-Antoine m'avait dit on peut t'embaucher, mais alors j'étais embauché avec un tout petit salaire, ce qu'ils appelaient des vacations. Donc les vacations, c'était des demi-journées. Alors l'escroquerie totale, la demi-journée était pas quantifiée en horaire. Donc la demi-journée, elle faisait 8 heures. Voilà. Point barre. Et la nuit, c'est ça qu'il faut dire aux jeunes qui débutent médecine aujourd'hui, ils ont de la chance, parce que la nuit n'était pas comptée dans ton temps de travail. Donc, t'allais travailler la nuit, c'était pas compté dans ton temps de travail. Donc d'un coup, tu travaillais jour, nuit, et je me tapais des 80, des 100 heures par semaine. Je me souviens qu'une fois, j'ai fait 5 jours consécutifs aux urgences Saint-Antoine.
Et tu étais payé pareil,
jours,
bien sûr.
Nuit et jour, payé pareil. Toujours payé pareil. Et j'étais payé 250 francs la vacation de 8 heures. Ça fait rire aujourd'hui. 250 francs. Et 30 euros à peu près, tu vois, un truc comme ça.
Ça t'était venu d'où l'envie de faire médecine?
Ça m'est venu d'un homme merveilleux qui s'appelait le professeur Carlioz, qui était un chirurgien orthopédiste à l'hôpital Trousseau à Paris, et où j'avais été étudiant, où j'avais fait un stage. En 1987 ou 8, un truc comme ça. Et j'avais trouvé cet homme, c'était un philosophe en fait. Et j'avais sympathisé avec lui et j'étais resté. J'avais trouvé que, si tu veux, j'étais tout seul externe face aux urgences pédiatriques et je trouvais ça génialissime. Moi, au départ, je voulais faire de l'action humanitaire. Je me suis aperçu que tu pouvais facilement faire de l'action humanitaire à Paris. Et l'action humanitaire, c'était les urgences avec cette prise en charge médico-psychosociale que je trouvais d'une richesse incroyable.
Mais en fait, t'avais cette envie ou ce besoin d'aider. En tout cas, on a l'impression que t'avais envie de te rendre utile, quoi.
Ah, mais c'est ça. J'ai besoin d'être utile. Et donc, si tu veux, j'ai débuté comme ça, où une espèce d'oppression sociale contre moi. Bon, ça m'a fait perdre mon couple parce qu'il fallait gagner des thunes parce que les enfants étaient nés, machin, et t'étais un peu dans la misère. Hein, et voilà, heureusement qu'il y avait les parents qui donnaient des thunes. Et puis d'un coup, un jour, j'ai un peu pété les plombs, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible, je suis un être humain comme les autres. Tu voyais les spécialistes de l'hôpital qui avaient des salaires meilleurs que moi, des statuts meilleurs. Et moi, j'étais toujours attaché vacataire. Donc, un jour, en fin 97, je dis, c'est plus possible. Donc, j'appelle le syndicat. Donc, tu sais, le syndicat de médecins. Ouais. Donc, j'appelle le syndicat de médecins qui s'occupait des urgences. Et je dis, excusez-moi, je travaille 80 heures. Je suis payé 3 francs 6 sous. Personne me reconnaît, quel est mon avenir? Et le mec me répond, de toute façon, vous êtes issu de la médecine générale, vous pourrez jamais travailler à l'hôpital. Et je me suis dit, mais pauvre con, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Le médecin généraliste, c'est un sous-médecin. Donc, j'étais pas d'accord du tout. Donc, j'ai monté mon syndicat.
Ouais.
Avec des potes.
L'association des médecins
urgentistes, à l'époque hospitalier de France. Alors chaque mot était important. On avait mis association parce que on voulait pas le côté réducteur du syndicat et on voulait faire des actions humanitaires et d'entraide avec les pays en voie de développement. Donc, on avait appelé ça association. Médecins, on était des médecins. Urgentistes, parce que le mot n'existait pas. Hein. C'est mon organisation qui a fait naître dans le vocabulaire commun le mot urgentiste. Ah oui, à l'époque, personne parlait d'urgentiste. Hein. Il y en avait qui nous disaient oxyologue, qui traitait la douleur. Il y en avait qui nous appelaient urgentologue. Ce mot est resté notamment au Québec. Bon, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Et on est parti là-dessus. Et on a monté notre premier mouvement de contestation le 10 janvier 98. Et on a toujours voulu, alors c'est peut-être une erreur politique, on a toujours voulu faire le rassemblement, donc je me suis fait, mais ouais. Si tu veux, avoir, mais considérable par les autres syndicats qui étaient arrivés, qui nous piétinaient, qui nous serraient la main par devant et par derrière, t'avais des...
Ça se manifestait comment?
Des trahisons à chaque fois, c'est-à-dire qu'on arrivait à négocier quelque chose, à obtenir un petit quelque chose, et par derrière le syndicat rappelait le ministère en disant ah non faut pas écouter Pelou et ses sbires, etc.
C'est intéressant comme des différentes entités qui devraient avoir une cause commune dans beaucoup de milieux finalement se tirent la bourre et se font
c'est concurrence. C'est la France. La France, ça reste un pays de tribus, donc d'un coup, t'appartiens à une tribu, pas à l'autre, et voilà.
C'est violent,
tu vois. Voilà, c'est flagrant. C'est pour ça. Voilà, tu peux décliner ça actuellement avec le mouvement En Marche qui se crée. En fait, t'as plein de personnages de différentes tribus qui se rassemblent sur une nouvelle tribu. C'est pas sûr que ça marche, ouais. Tu vois. Bon. Et donc j'ai créé mon syndicat avec des potes. Hein. On a créé.
Comment ça a été perçu par les autres, du coup, les autres?
Très très mal, très très mal. J'étais traité d'extrême gauchiste, d'homme qui aime les médias.
Déjà.
Enfin tu vois. Alors c'est marrant parce que c'était un problème générationnel. Parce qu'en fait, pour moi, les médias c'est un outil. C'est tout. Passer à la télé c'est un outil. Avant t'avais le gars qui passait avec un porte-voix dans la rue. Voilà, maintenant, t'as la télé. Et la télé, elle est complètement démystifiée. Tu passes à la télé, voilà, ça a une demi-vie très courte. C'est très fugace, tout ça. Bon. Et puis, voilà, et puis on s'est battu, on a fait des mouvements, on a obtenu, ça c'est pour les jeunes, on a obtenu des statuts qui n'existaient pas. Toujours avec cette volonté d'avoir la qualité des soins, donc en validant des essais et tout. Les jeunes qui partent maintenant dans la médecine d'urgence, et c'est tant mieux, n'ont pas connu ça, mais nous, ça a été une oppression, ça a été un combat de 15 ans, tu vois, pour en arriver là, tu vois. Et puis, bien sûr, il y a eu la canicule de
2003,
tu vois, et ça, c'était un truc. Bah, les médias sont venus, si tu veux, les gens mouraient.
Parce que toi, c'est toi qui a un peu toqué à la porte des médias, c'est ça? Parce qu'en fait, je crois que Chirac était au Canada. Et Raffarin était en vacances. Et le ministre de la Santé était avait pas l'air de faire trop gaffe
à ce qu'il se passait. Il était entouré de bras cassés au ministère de la Santé.
C'était Mattei, c'est
ça? Ouais, Mattei. T'écoutais pas. D'abord, Mattei est un homme très vaniteux. Et qui écoutait pas les gens. En plus de son côté catholique très 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 pratiquant, donc ils écoutaient pas. Et puis si tu veux, c'est la France de 2003, c'est la France qui a ses habitudes. Tout le monde est en vacances au mois d'août, il peut rien se passer au mois d'août.
Et toi, qu'est-ce qui affecte à tu t'es alarmé en
fait. L'habitude, d'un coup, si tu veux, on avait développé, nous étions les premiers, on avait développé, c'était le début d'Internet. Pas oublié, c'était le début d'Internet. Donc on parlait entre nous. La vieille garde n'utilisait pas ça. Et nous, on avait les informations qui arrivaient de partout. Le ministère n'avait pas Internet. Hein. Ils savaient pas. Ils avaient
au ministère, il n'y avait pas Internet.
Mais non, ils avaient vaguement des messageries et tout. Mais nous, on avait déjà monté des réseaux.
Ils étaient peut-être sur Minitel encore à l'époque.
Il y avait des Minitel encore à l'époque. Il y avait des à l'époque. Donc voilà, donc on a lancé ça, mais c'était pas du tout un coup de com. J'ai jamais eu de chargé de com ni rien du tout. Et j'ai pris les premiers micros en disant, mais les gens meurent. Et puis, erreur de com monstrueux du gouvernement qui a dit, voilà. Alors, c'était bizarre, si tu veux, d'un coup, pour les jeunes, tu peux te retrouver à n'importe quel moment dans un tourbillon historique En fait, il faut vraiment garder la tête froide. Ce que j'ai fait.
Toi, t'avais quel âge à l'époque? Trentaine.
39 ans. Et c'était d'un coup, ça te prend. Il faut rester la tête froide. Toute personne peut être confrontée à une notoriété
instantanée,
mondiale. Je me suis retrouvé avec toutes les chaînes de télé du monde entier qui m'interrogeaient et tout. C'était assez considérable. Alors ça me faisait marrer parce qu'il y avait Al Jazeera qui venait. Et déjà à l'époque, j'expliquais que je me marrais en disant « Mais non, mais vous savez, les femmes meurent et tout. » Je parlais du droit des femmes à Al Jazeera. C'est pas leur truc du tout. Ça me faisait marrer. Donc voilà, donc ça a été le premier truc et voilà, et ça m'a permis de rencontrer des tas de personnes et puis après je suis rentré à Charlie Hebdo.
Ouais, mais c'est quelque chose que t'as vécu comment justement cet afflux médiatique sur toi en 2003.
C'était oppressant parce que si tu veux, tu as une espèce d'oppression de notoriété et ça entraîne toujours la jalousie.
Et des attaques. Ce que t'appelles la chasse au pelou.
La chasse au pelou, exactement. La chasse au pelou était ouverte. Et la notoriété entraîne toujours la jalousie. Toujours. Et il faut le savoir. Tu as... Et à l'époque, il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, t'imagines aujourd'hui. Et c'était un truc qui était... Mais que j'ai bien vécu. Ça a été... Mais, si tu veux, les gens pensaient que c'était un truc... C'est marrant comme les connards, en fait, tu les reconnais, les connards, parce que c'est des gens, à chaque fois, tu sais, qui te sortent le mot, mais il est médiatique. Gna, gna, gna. Et tu les reconnais. D'un coup, tu dis, OK, toi, c'est vu.
Moi,
c'est...
j'ai beaucoup préparé cette interview en allant sur lire des articles qui parlent de toi, etc. Et c'est vrai que dans les commentaires, de toute façon, dans les commentaires, c'est pas compliqué. Les seuls qui s'expriment dans les commentaires, soit ceux qui détestent, soit ceux qui adorent.
Ouais, c'est
donc
ça.
C'est très biaisé. Et alors, ceux qui détestent, il y en a aussi. Hein.
Ah oui, bien sûr, beaucoup.
Toi, c'est quelque chose comment tu gères, ouais, ça maintenant.
Faut pas le lire.
Tu lis pas.
Faut pas le lire. Faut pas le lire parce que tu sais pas qui c'est. J'ai jamais quelqu'un qui vient me voir en face en me disant j'aime pas du tout ce que vous faites. Jamais. Et en fait, si tu veux, l'anonymat des réseaux sociaux et des machins, tu sais pas qui c'est.
Libère les gens.
Faut pas en tenir compte. J'ai un ami qui travaillait à Charlie Hebdo et qui se faisait dépouiller à chaque fois qu'il passait à la télé et tout. Et un jour, il y a un de ses amis qui est un mec qui connaît bien l'informatique, qui a repris tous les commentaires sur Twitter qui l'insultaient. Il a réussi à remonter les adresses IP. Mmh. Et en fait, de 200 personnes qui l'insultaient, en fait, c'était 5 personnes qui a fait différents profils et qui, en fait, passaient leur temps à retweeter. Donc, c'est assez facile de faire croire qu'il y a 500 000 personnes qui te détestent, en fait.
Donc, toi, tu lis pas, tu...
Faut pas le lire. La fachosphère m'en veut beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut pas le lire, en fait. Et il y a beaucoup... Je suis une des têtes de turc du Front National.
Pourquoi, en particulier?
Pour de multiples raisons, notamment après les attentats, mes liens et mon soutien à François Hollande a été détesté. Et puis, il voyait en moi, surtout après les attentats, où je suis devenu à nouveau, ce qui est très rare, si tu veux, dans la vie de quelqu'un, c'est que tu tombes deux fois de suite dans ton existence, dans un tumulte médiatique mondial. Et c'est un truc qui est où il faut vraiment prendre beaucoup de recul, parce que c'est très compliqué à gérer, quoi, tu vois. Voilà.
En fait, juste après cet épisode de la canicule, c'est là que tu as commencé à écrire. C'est là que tu as fait ton premier bouquin.
C'est là où j'ai fait mon premier livre. Et c'était pas, si tu veux, et en fait, on est à une époque pour les jeunes, tu vois. Je crois que c'est. Faut rien s'interdire.
C'est ce que je dis dans ce truc, dans cette émission.
Voilà. Faut rien s'interdire. C'est-à-dire que tu es à une époque où. Putain, ce que j'aimerais avoir 17 ans encore. Bon, mentalement, j'ai 17 ans, si tu veux. Je reste foncièrement un adolescent et j'adore ça. Tout est possible. Tout. Faut rien s'attendre. On a une société qui cantonne, tu vois. Je supporte pas ça, tu vois, notamment quand on a des jeunes, des internes et tout, qui viennent, des externes et tout, il y a un espèce de regard concupiscent à leur égard et un espèce de regard d'infantilisation. Et moi, je passe mon temps à dire, non, mais vous vous rendez compte que vous parlez à des jeunes qui ont 27, 28 ans et on les infantilise. Non, mais il est qu'interne, il sait pas. Un interne aujourd'hui a probablement plus de connaissances que moi en médecine et il a probablement deux fois plus de connaissances sur les sciences fondamentales que j'en avais dans les années 80 quand j'ai fait mes études. Ça dit tout. Et on infantilise. Le jeune est toujours trop jeune.
Ça, c'est quelque chose qui est assez français, je pense.
Ah, c'est très français.
Parce que aux États-Unis, c'est pas du tout
comme
ça.
Ah, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout
ça. Il y a d'autres problèmes, mais les jeunes sont...
Mais ils sont intégrés tout de suite. Et t'as des responsabilités, on te considère. Mais le pire en France, c'est que quand tu passes 40 ans, t'es vieux. Et t'es trop vieux.
C'est vrai.
Ce qui fait que t'as une fenêtre de tir pour exister entre à peu près, on va dire, 30 ans et 40 ans, c'est-à-dire 10 ans, 120 mois. C'est affreux. Quand tu commences à le compter en mois.
Et c'est... Oui, alors j'avais vu un article justement qui te montrait les jours et qui cochait les jours où tu pouvais faire des choses.
Voilà.
Et c'est pour ça que les gens s'interdisent, tu penses?
S'interdisent. Il y a l'autocensure. Et il faut pas. Et c'est vrai que si tu veux, moi, j'avais fait médecine, j'étais très formaté, tu fais médecine. Donc, en gros, formaté, un métier, une spécialité, une vie,
oui,
une femme, des enfants, point barre.
D'autant qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de commerce.
Ouais.
Quand je dis aux gens que je fais un podcast, moi, avec des grands yeux, qu'est-ce que tu fous, quoi? Tu devrais être en banque, tu devrais être en conseil, ou tu devrais être en train de...
Et alors, moi, en fait, ça a été une rencontre avec notamment Sharp de Charlie Hebdo, parce que j'avais des amis, parce que j'avais fait de la musique, donc j'avais des amis, les têtes raides et tout, et j'ai rencontré tout ce petit monde parce que après 2002, après le séisme que ça avait été,
les élections.
Chirac-Le Pen, on s'était mobilisé déjà à l'époque avec mon association, avec la MUF. Je voulais me mobiliser pour aller au sens large et pas que ça reste un syndicalisme corporatiste, mais je voulais un syndicalisme qui s'ouvre au monde. Donc, je passais mon temps à me mobiliser. Donc, j'avais rencontré tout ça. Et en fait, après la canicule, j'avais vu débarquer... d'ailleurs, c'était assez amusant. J'avais vu débarquer des grands noms qu'on voit faire des chroniques à la télé, du monde politique, qui étaient en fait payés par des boîtes d'édition pour venir me voir, prendre mon nom, faire le livre à ma place et toucher 50% des droits. C'est ce que font beaucoup de journalistes.
D'accord.
Voilà. Faut quand même le savoir. C'est un gros sujet tabou, mais ça s'appelle des nègres. Mais quand tu fais un sujet médiatique, ils prennent ton nom pour faire vendre, etc. Et j'avais vu défiler tous les éditeurs qui s'étaient pointés, qui étaient arrivés.
Donc quand il y a une affaire,
oui, à chaque fois.
Mettons que je sois dans une affaire,
voilà.
Il y a des gens qui vont venir me voir, ouais, me dire on écrit le bouquin à ta,
ouais,
place,
ouais,
on met ton nom dessus, ouais, comme ça, on connaît, ouais, le nom et l'affaire,
ouais,
et on,
ouais,
vend,
ouais,
et t'as 50%.
Ouais, voilà.
D'accord.
C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et moi, je leur ai dit, bah, absolument pas, si un jour je fais un livre, et je me souviens, à chaque fois, je disais, non, mais de toute façon, moi, je sais écrire des ordonnances, je ne sais pas écrire de livres. Et en fait, à l'époque, les mecs de Charlie Hebdo m'avaient dit, mais on aime bien ce que tu dis et tout, tu devrais écrire dans le journal et tout. J'avais dit, bah, je ne sais pas écrire, donc c'est a priori non. Et en fait, ça a été une rencontre avec un mec chez Fayard, qui s'appelait Durand, qui était le patron, qui était un mec sympa, et qui m'a fait rencontrer un ancien journaliste de l'UMA, qui m'avait dit, non, mais on fait le bouquin, tu vas voir, c'est facile et tout, et on dicte. Et on avait dicté, ils avaient recopié, et en relisant, j'avais fait ma Simone Signoret, tu vois. J'avais dit, non, mais ça me va pas du tout, la manière dont c'est écrit, je vais le réécrire. J'ai réécrit tout le livre tout seul. Voilà. Et
pourquoi,
c'est là où
ça
j'ai découvert
pas la main
les... C'était pas ma voix, c'était pas mon style, et c'est là où j'ai découvert, voilà, et j'ai balancé le livre, et après, je suis rentré à Charlie Hebdo. Et en fait, si tu veux, au départ, le monde, médical ne comprenait pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait des livres, il fait de la médecine, il écrit, il donne son avis,
ouais,
sur
c'était
tout.
C'était du jamais vu, c'est ça?
Jamais vu. Et puis après, j'ai découvert des potes qui débutaient, qui avaient mon âge et qui débutaient à e-télévision et qui faisaient des débats. Et là, il y avait un mec qui m'avait dit, mais viens au débat et tout. Et j'ai commencé à débattre. C'est ça qui était rigolo, quoi.
Parce qu'automatiquement, du coup, t'étais devenu un genre de porte-parole.
Ouais. Et ben, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu, il y a plus, alors surtout maintenant avec les réseaux sociaux, t'as plus le chevalier blanc, tu es forcément pourri quelque part par des gens. Forcément. Mais il faut savoir te défendre. Et pour te défendre, c'est la justice. Donc en fait, quand quelqu'un dit du mal de toi, il faut pas hésiter à porter plainte en diffamation, en fait.
Ouais.
Ce que j'ai fait contre un hebdomadaire pourri comme Le Point, où j'ai porté plainte parce qu'ils avaient fait un article dégueulasse sur moi.
Ah, c'était sur... ouais, c'était, t'avais eu gain de cause, d'ailleurs.
J'ai eu gain de cause. Ouais. J'ai eu gain de cause, ouais. Okay. Ouais,
et après, donc, t'as commencé à... En fait, c'est ça, ce qui a lancé un peu ta carrière d'écrivain. Et t'as commencé à faire des chroniques pour Charlie.
Des chroniques pour Charlie,
c'était voilà. Des chroniques d'urgence quotidienne.
Quotidienne.
Sur la vie aux urgences.
La vie aux urgences.
Et tu racontais et la vie comme elle était, quoi.
Comme elle était.
Moi, j'en ai lu un bon paquet de ça va de la porte de l'hôpital qui est bloquée.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Et là, ça a commencé à gueuler aussi.
Non, ça a commencé à être lu. Et en fait, c'était l'hôpital le comprenait. L'hôpital est une entité. L'hôpital, il veut être respecté. Or, j'ai toujours respecté l'hôpital public. J'ai toujours respecté mes collègues et tout, sauf des gros nazes qu'il fallait dénoncer ou des gens, voilà.
Ouais, l'hôpital, tu défendais beaucoup. Et d'ailleurs, ce que tu dénonçais dans les chroniques principalement, souvent, c'était qu'on transformait l'hôpital public en une entreprise plus orientée business avec des problèmes de rentabilité.
Ah, mais ça a été mon combat. Mon combat, c'est pour ça que j'étais contre Sarkozy et sa vision de l'hôpital entreprise. Et comme j'étais radicalement contre Fillon, moi j'ai connu les années Fillon, Bachelot, qui ont fait des ravages dans l'hôpital avec la naissance de l'hôpital entreprise. Et ça, si tu veux, c'est une de mes racines politiques. C'est-à-dire, je crois vraiment pas que nous sommes sur Terre pour être en concurrence avec l'autre. On est là pour être en complémentarité avec l'autre. On est là pour coopérer avec l'autre. Mais tout ce qui va vers un fighting permanent où d'un coup tu es sans arrêt en train de te battre contre l'autre en étant en concurrence, je trouve ça complètement délirant. Et les années Bachelot, la naissance de l'hôpital entreprise, la naissance de la tarification à l'activité, mais j'ai vu les ravages que ça a fait. On a vu avec la naissance...
Qu'est-ce que ça voulait dire la tarification à l'activité?
C'est-à-dire que, en gros, si tu veux, c'était une énorme escroquerie. Ils ont fait croire au monde médical que plus ils allaient travailler, plus ils auraient d'argent.
C'était la fameuse promesse de campagne.
Promesse de campagne de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, blablabla. Et il a décliné ça à peu près partout dans tous les modèles économiques. Et la tarification à l'activité, plus un service allait avoir d'activité et plus il aurait d'argent. Mais l'argent qui arrive à l'hôpital, c'est une enveloppe fermée. C'est-à-dire c'est un budget qui est fixé par les objectifs de dépenses de l'assurance maladie et c'est une enveloppe fermée. C'est-à-dire que le Parlement vote
au début de l'année, c'est ça,
au début de l'année et dit par exemple c'est 230 milliards pour la santé. C'est fermé. Ce qui fait que la concurrence s'opérait
entre les établissements
sur une enveloppe fermée. Donc c'est pas du tout tu vas piquer.
Il y en a qui vont voilà, t'es forcé de prendre la part d'un gâteau.
Voilà.
Qui est...
Et c'est là l'escroquerie du truc. Et ça marche pas. Aux États-Unis, l'enveloppe est pas fermée. Donc le truc court, ils peuvent gagner plus en travaillant plus. Mais en France, c'est pas du tout ça. Et donc c'était complètement débile. Et c'était un de mes combats. C'est pour ça que ça m'intéressait dans le développement de En Marche. Il y avait deux candidats à l'élection présidentielle qui ont remis en cause la tarification à l'activité. Jean-Luc Mélenchon et Macron. Et j'ai voté Macron parce que je me suis dit, mais voilà, c'est la remise en cause de la tarification à l'activité, voilà celui-là. On aurait eu Fillon, on coulait définitivement le service public hospitalier. Parce que de toute façon, il n'y avait qu'à voir quand il avait fait sa vidéo bien pourrie où il est allé rencontrer des personnels et où il a les mains croisées, il est recroquevillé sur lui-même et il refusait de reconnaître les difficultés de travail dans les hôpitaux.
Ce que t'as beaucoup raconté. D'ailleurs, t'en as fait plusieurs bouquins ensuite.
Oui.
Histoire d'urgence.
Il y a 5 tomes.
Il y avait un travail particulier sur ces livres parce que moi, je les ai lus. Il y avait une intro à chaque fois.
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, je rajoutais des petites chroniques, je réécrivais les chroniques, je racontais l'évolution qu'il y avait sur les chroniques, et puis je mettais toujours, ça m'amusait, un ami qui faisait l'introduction et la post-face. Parce que je voulais que ça soit généreux. J'ai toujours voulu que mes livres soient généreux, en fait.
Qu'est-ce que tu appelles généreux?
C'est-à-dire, tu donnes des trucs.
Ouais.
Tu refais pas juste la photocopie de la chronique et voilà, un livre c'est fait pour. Et puis si tu veux la formule qui me plaisait, c'était de raconter des petites histoires. C'est pour ça que le dernier que j'ai fait, Instinct de vie, je l'ai divisé en chapitres et puis
J'aime
bien quand c'est rythmé.
Mais et justement donc tu t'es mis à écrire, t'étais pas du tout écrivain à la base,
non.
Tu t'es mis à écrire tous les jours.
Tous les jours.
Et alors comment c'était parce que t'as dû apprendre
une discipline.
J'imagine.
C'est une discipline. L'écriture est disciplinaire. L'écriture, c'est écrire, c'est aller vers la solitude. C'est aller vers la solitude. Tu t'enfermes.
T'es obligé.
T'es obligé. Tu t'enfermes. C'est difficile. Tu es là. Tu pétris la chose de la création. T'es tout seul avec tes neurones. Et tu te débrouilles.
T'avais des difficultés au départ à t'y mettre?
T'as toujours des difficultés à t'y mettre. Tu vois, là, j'ai commencé le prochain livre, qui est la suite des agonies des gens célèbres.
Que j'ai lu aussi.
Voilà, et...
Qui ont tous eu des très terribles fins.
Bah, l'histoire de ce truc, c'était marrant parce qu'il y avait eu une crise à Charlie Hebdo en 2008 parce que Philippe Val avait obtenu France Inter par Sarkozy. Et il y avait une crise avec Ciné, etc. Donc il y avait tout ça. Il y avait un énorme trou dans le journal. Et en fait, j'avais dit à Charles, bah, écoute, j'ai une idée depuis des années, c'est de raconter la fin de vie des gens célèbres. Parce qu'il y a des documents sur la mort de Voltaire, il y a des trucs historiques et tout. Bah vas-y, c'est bon.
Donc, encore un petit pas de côté où t'es...
Un pas de côté, tu passes le truc. Et donc, je suis parti là-dessus et j'ai fait ça. Et là, je fais la suite. Alors, c'est marrant parce que ce livre, ça a été un best-seller. Hein. Mais là encore, si tu veux, t'es médecin. Alors, t'es médecin, t'es écrivain, t'es qui, toi? Ça fait un best-seller à 100 000 livres vendus. C'est énorme. J'ai jamais eu un article dans les revues littéraires, etc., pour dire, bah voilà,
Parce que t'étais médecin.
C'était médecin. Tu rentres pas dans la case. C'est comme, tu sais, je suis libre penseur. Donc, d'un coup, il y a des trucs de Mélenchon que j'aime bien, il y a des trucs d'En Marche que j'aime bien, bon, mais je sais qui j'aime pas. J'aime pas le libéralisme, j'aime pas le Front National, l'extrême droite, voilà, bon. Et les gens veulent te cantonner dans un truc.
De gauche.
Mais je suis de gauche parce que je suis pour la culture, pour la laïcité, qui sont des, historiquement, et l'antifascisme, qui sont des valeurs de gauche. Donc, je suis de gauche. Mais sans étiquette, j'ai jamais été dans un parti.
Mais il y a un truc qui m'intéresse, c'est que...
Mais on peut être dans un parti. Moi, c'est mon cas, mais je pense que c'est vachement citoyen de militer dans un parti. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire.
Tu penses qu'il faut se faire le porte-parole de ces idées?
Oui, complètement.
Ouais. Parce que toi, c'est quelque chose qu'on remarque tout au long de ta vie, c'est qu'à chaque fois que tu avais envie de dire quelque chose, finalement, tu le disais.
Ah bah bien sûr, je le disais.
Ouais.
Je le disais, mais tu sais, là, c'est marrant parce que là, tu vois.
C'était quelque chose qui devenait naturellement, ou est-ce qu'il fallait que tu te forces
non,
à.
Non, c'est naturel. Alors certains te disent, il est grande gueule, machin. Mais en fait, faut surtout jamais écouter ceux qui, jamais regarder, hein, c'est un conseil que je donne aux jeunes, jamais regarder les méchants. Les méchants sur Internet, Facebook, tout ça, faut pas les regarder. Faut jamais regarder ça. Si tu regardes ça, des fois, ça m'arrive et ça te neutralise pendant quelques heures, quoi.
Ah oui, moi, je sais que je pourrais avoir 1 million de personnes qui disent que ce truc est bien. Il suffit que j'envoie une qui dise que c'est nul et que
ça te paralyse. Faut pas regarder.
Je passe une semaine sous ma
couette. Faut pas regarder. Imagine, aujourd'hui, Picasso fait ses trucs avec les réseaux sociaux. Picasso est neutralisé. Parce que quelque part, ces réseaux sociaux, c'est le conformisme. Hein.
Ah oui, parce qu'en fait, dès que tu fais quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu original, s'il y a personne qui n'aime pas ce que tu fais, c'est que c'est pas créatif.
Bien sûr. Et puis, t'as les rumeurs, hein, t'as les rumeurs sur l'argent, moi je les ai eues, les rumeurs sur la sexualité, je les ai eues, les rumeurs sur la santé, je les ai eues.
Donc en fait, dès que t'es un peu de notoriété, on commence à raconter des histoires.
T'attaquer tout le temps.
Et qu'est-ce qui s'est passé en 2007, je crois, du coup, que t'es parti des urgences?
C'est historique, hein. En fait, il y a eu une panne électrique dans l'hôpital.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
J'étais de garde. Donc j'ai la panne électrique d'un hôpital, c'est la catastrophe. T'imagines, il n'y a plus d'électricité, les machines ne marchent plus. Et j'ai géré le truc. J'ai géré le truc, panne électrique, j'ai géré le truc. Et, chose improbable, dans la salle d'attente, tu sais qui j'ai le responsable photo de l'AFP qui a accompagné son père. D'accord? Donc moi, je suis en plein boulot, en train de soigner tout le monde et tout et tout. Non, mais il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça.
Ouais.
Et je commence à avoir Europe 1 qui m'appelle, France Info qui m'appelle, BFM qui m'appelle. Je comprends pas. Et vous avez un problème à Saint-Antoine? Je dis, ben, comment vous savez? Il vient d'y avoir une alerte AFP. Il dit, mais j'ai pas communiqué et tout. Et en fait, c'est le mec de l'AFP qui avait alerté tout le monde. Et comme la nuit, dans les grandes stations, tu as toujours quelqu'un de garde, ben, ils se sont activés. Ils sont arrivés à l'hôpital. Ces connards de professeurs de l'hôpital ont cru que j'avais fait un coup médiatique. Et je leur ai dit, mais non. J'ai pas fait un coup médiatique, j'en ai rien à foutre des médias.
Donc avec toi, c'est la suspicion permanente.
Permanente, il y a un coup médiatique, Ils sont tellement fêlés. Et pour moi, c'était un truc formidable, on n'a pas perdu un seul malade, l'hôpital a bien fait le truc et tout, mais Bachelot est intervenu immédiatement en disant « faut le zigouiller ». Et donc, avec l'aide de quelques professeurs, ils ont tout fait pour me virer du truc. Et j'ai été muté au SAMU de Paris, où ils se sont dit, la légende voulait que Patrick Peloux était pas un bon médecin, qui travaillait jamais. Et je suis arrivé là-bas, dégoûté d'être viré de mon hôpital d'origine. J'étais vraiment fusionnel avec mon service. J'avais obtenu la construction d'un nouveau bâtiment des urgences par un conflit social avec les syndicats. On avait obtenu ça, donc j'avais bien servi la cause. Et j'ai été jeté comme un chien.
Tu avais été réélu d'ailleurs à la tête du syndicat.
Oui, réélu, ouais. Mmh. Ouais. Et c'était marrant parce que si tu veux, par exemple, je suis celui qui a été élu avec j'ai été réélu à la commission médicale d'établissement de la PHP avec le plus fort nombre de voix. Et la commission médicale d'établissement de la PHP ne m'a donné aucune fonction. C'est le harcèlement quotidien que je vis. Hier soir, j'étais à la CME de la PHP, je demande la parole. C'est mon tour de parler, on donne la parole à un autre professeur avant moi. C'est l'humiliation permanente, en fait. C'est ce que je vis.
T'as de vrais ennemis, en fait. Ou de gens
de vrais ennemis.
Qui t'en veulent.
C'est ce que je dis dans mon livre Instinct de vie, c'est que ces vrais ennemis sont des gens. Je l'ai pas entendu personnellement, mais on me l'a rapporté, les gens qui me l'ont rapporté me l'ont vraiment
dit. C'est dommage que Peloux
n'ait pas été tué à Charlie Hebdo, bien sûr. Tes ennemis sont de vrais ennemis.
Comment tu l'as vécu, cette éviction? Des urgences?
Mal, parce que c'était mon job, mais en fait finalement, si tu veux, c'était en fait un bien, parce que c'est bien d'évoluer, c'est bien de changer, et en plus de ça, ça a calmé un truc chez moi, c'est que je voulais vraiment m'investir dans les responsabilités de la communauté de l'assistance publique hôpitaux de Paris, et en fait ils ont réussi à m'en dégoûter. C'est-à-dire que je pourrais apporter beaucoup en termes de management et tout, et ils m'en ont dégoûté, mais vraiment dégoûté. L'assistance publique est en train de crever d'un monde mandarinal, d'un monde du Moyen-Âge, d'un monde qui cultive son goût pour le 20e siècle. Et c'est complètement dépassé, quoi. Donc ça m'intéresse plus. Tu vois, là
mon projet... Un côté médecin de Molière, un peu...
Oh là 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 là. Si t'es des médecins de Molière, on aurait de la chance. Ils sont tellement vaniteux, haineux, que ça les autodétruit, en fait. Faut les laisser s'autodétruire. Ils comprennent rien. Et tu peux pas parler avec eux parce que c'est la haine qui parle. Dans leurs yeux, je lis la haine. Tu vois? Et, voilà, c'est comme ça. Moi, je les aime bien parce que je trouve qu'ils sont investis dans le service public. Donc je trouve que quelque part c'est bien et c'est bien l'évolution que ça a, mais tu peux jamais parler avec eux, ils sont tellement vaniteux. Mmh. T'en as un qui est, il y en a un une fois qui a dit de toute façon un médecin passé 40 ans, il n'est plus opérationnel.
Et la fenêtre de tir encore.
Et le mec a un poste très très élevé à l'assistance publique. Mmh. Mais vraiment, tu te dis. Mais,
du coup, au SAMU, tu voyais plus trop de patients.
Si, c'est une autre médecine. Tu vois les cas les plus graves. Mais les urgences me manquent. Urgences me manquent. Ouais. Ouais, urgences me manquent. Alors là, si tu veux, on a un projet très ambitieux, c'est d'aller dans les camps de réfugiés syriens en France, là où il y a des réfugiés. Savoir s'il y a beaucoup de professionnels de santé en fait qui sont arrivés et les remettre au travail avec nous, les aider en solidarité et commencer à songer à rebâtir leur système de santé en Syrie. Voilà, c'est un projet que j'ai
comme eu, ce que tu avais fait un peu au Sri Lanka.
Exactement au Sri Lanka quand j'y étais allé.
En 2004, tu étais allé au Sri Lanka et vous aviez aidé à construire après le tsunami.
Ouais, mais ça a servi à rien. Parce qu'en fait, le Sri Lanka est tombé dans l'escarcelle des États-Unis et donc tout ce qui était français.
Tu racontes qu'ils vous rejetaient de la main.
Ah oui, complètement.
Ils vous viraient.
Ils virent. Les Américains arrivent et on n'a pas les moyens.
C'est vrai que tu vois que la France, c'est quand même un.
On est un pays qui est très regardé, mais on est un pays qui doit se remettre au travail pour reconquérir les choses. Pour voyager un tout petit peu, on n'a plus l'aura qu'on avait avant et on n'a plus la puissance qu'on avait avant. J'ai discuté avec les gens de l'ambassade de France à New York et qui te disent on a un rayonnement intellectuel encore important, mais on se donne plus les moyens d'avoir ce rayonnement intellectuel. Bercy veut qu'on vende l'espace qui est sur la 5e avenue et qui est très prestigieux pour la France. Mais il n'y a plus d'argent. Donc on laisse le truc péricliter. Et Bercy veut le vendre. C'est une connerie énorme. Il faut au contraire le faire vivre parce que c'est le miroir de la France. L'Italie à New York a acheté un immeuble pour faire la maison de l'Italie. C'est l'un des endroits les plus hype de New York où tout le monde va. Mais c'est ça qu'il faut. Et on a un rayonnement de la France à avoir. Tu vois, c'est un truc. Je suis allé passer 3 semaines pour faire une résidence d'écriture pour commencer le nouveau livre à la Villa Médicis. Bon, c'est très spartiate, c'est un truc monacal.
Bon, ça m'a plus de moyens. Tu t'es complètement coupé
du monde
pour démarrer le bouquin.
Pour démarrer le bouquin.
Pas de téléphone.
Si, internet, évidemment. Okay. Ah bah on est accro à ça.
Ouais. Téléphone. Je me demandais justement parce que.
non, sinon on est accro, on est addict.
Ouais, moi j'essaye d'utiliser des applications pour le couper.
À l'ère générale, on est addict. Mm. Tu vois les gens à table, tu vois là, on est là, moi j'ai mon portable sous le nez, on est addict. Mm. On a une conduite addictive avec ça. À être connecté tout le temps, c'est très très dangereux, je pense. Intellectuellement, c'est dangereux. On a l'impression qu'on fait des choses, en fait, on fait rien, on contemple.
Ouais, puis c'est beaucoup plus dur de se concentrer.
Ouais, aussi. Beaucoup plus dur.
De se concentrer sur des vraies tranches de temps, dont t'as besoin si t'écris.
Ouais.
Et toi, comment tu faisais alors quand tu t'es coupé là? C'était quoi ton rythme?
Tu sais, quand tu commences un nouveau livre, c'est compliqué. Hein. C'est pas tu commences la première page et tout. C'est une espèce de petite touche successive et tu démontes et tu fais
un plan toi d'abord.
Non. Tu
t'écris
pars,
quoi.
T'écris après le plan naît tout seul. Il y a des trucs que tu fais que tu détruis après, il y a des trucs que tu bâtis que tu refais, il y a des trucs que tu avais défaits que tu reprends.
Ça va te prendre combien de temps tu penses de l'écrire?
6 mois. Mmh. C'est très long.
En écrivant tous les jours?
Tous les jours. Mmh. J'avais perdu l'écriture parce que en quittant Charlie Hebdo, j'avais perdu l'écriture et tout et en fait, en refaisant le dernier bouquin, j'ai repris goût à l'écriture et à l'isolement, une autre forme, un truc différent. Et c'était marrant parce que le dernier bouquin, je l'ai écrit à l'ancienne, à la main.
Tu l'as écrit sur un manuscrit?
Sur un manuscrit. Ouais.
Pourquoi?
Ça s'est fait comme ça parce que j'arrivais pas, donc je l'ai dicté. J'ai dicté. J'arrivais
pas
plus.
C'était dur de réécrire.
C'était dur. Il y avait les fantômes des amis qui revenaient sans arrêt. C'était difficile, donc je l'ai dicté. Puis ils ont sorti le manuscrit écrit. Alors c'était très drôle parce qu'il me fournissait des pages dactylographiées et je réécrivais dessus. Donc t'as des pages, c'est assez joli à regarder. T'as des pages qui sont entièrement griffonnées avec des flèches partout, des mots, des machins, des trucs. C'est très drôle.
T'avais donc ce livre, c'est L'instinct de vie.
Ouais.
C'était un livre qu'il fallait que t'écrives pour partager tout ton processus de reconstruction.
Oui.
Tu sais que
oui.
C'est un livre qui c'est le premier livre que j'ai lu de toi.
Ah ouais.
De... J'ai commencé par ça. J'étais vierge de Patrick Peloux.
Ah, carrément.
J'avais pas de biais, si tu veux.
Ah, très bien.
Et ça m'a vachement ému, ce bouquin.
Ah ouais.
En fait, ça m'a tellement ému que, bon, je le dis dans le podcast, c'est l'instant fragilité, mais, à partir de la page 10, j'étais en train de pleurer.
Ah ouais.
Jusque à la fin du bouquin, en fait.
Ah ouais.
Parce que ça m'a fait comprendre des choses, je crois, sur des gens que j'ai connus, ou de ma famille, ou que j'ai pu connaître, qui avaient vécu des drames.
Ouais.
Et tu sais, les bouquins, tu les lis et ça élargit ta perspective. Et d'un seul coup, tu comprends.
Tu dis bon sang, mais c'est bien sûr.
Voilà.
Ouais.
Et moi, je me disais des choses que j'avais jamais réussi à comprendre avec des gens, où j'avais jamais réussi à débloquer.
Ouais.
D'un seul coup, me sont remontées, quoi.
Ouais.
Et ça m'a vachement ému parce que ça m'a rendu triste. Et en même temps, il y a beaucoup de choses aussi très touchantes dans ce livre. Quand tu parles du moment où vous allez au Bataclan, la famille qui plante les feuilles là.
Ah là là, les fleurs. Ouais,
ils ont planté feuilles, un arbre pour leur fils et ils amènent
ils
les feuilles.
Ils ont amené des feuilles. Ouais.
Ouais, ça.
Ils ont amené des feuilles.
C'était.
Tu sais, j'ai vécu des trucs là. C'est sans fin. On peut en parler sans fin, en fait. Mm. On peut en parler sans fin. Mais surtout, si tu veux, ce qu'il faut dire, notamment pour les jeunes, c'est que, en fait, on mesure jamais la force intérieure qu'on a. Le courage. On a une société où des gens qui nous entourent, qui passent leur temps à rabaisser les choses, et en fait, on peut tout faire. J'ai cette certitude, on peut tout faire. C'est une question de travail, c'est une question de discipline, c'est une question de vaillance par rapport à l'obstacle, mais on peut tout faire. Il faut jamais désespérer. On a un système, ouais, machin, vous faites ça, il y aura du chômage et tout. Non, mais faites les choses. Bossez et tout, vous allez y arriver, bien sûr.
C'est ce que j'essaye de recommander.
Bah, c'est bien.
Ouais.
Très bien.
Toi, cool. dans ce bouquin, il y a pas mal de choses qui m'ont intéressé.
Ouais.
Notamment de tout ce que tu donnes comme conseil pour aider les gens à se reconstruire. En fait, c'est des conseils parce que c'est ce que tu as vécu, toi. Et la seule manière de donner des conseils, c'est un peu l'autobiographie, quoi. C'est, je l'ai vécu,
oui,
donc je peux donner des conseils.
Si tu veux, j'ai eu un regard très... Par rapport à moi-même, j'ai eu un regard très extérieur et ça a été de constater le médecin malade.
Parce qu'on pense toujours que le médecin, finalement, ça lui fait rien.
Ah, mais c'est très tabou. Tu sais, moi, j'ai vu un de mes amis qui était un médecin brillantissime, qui travaillait avec moi, et à 50 balais, il a été touché par un cancer du pancréas. Et j'ai vu l'effondrement de cet homme qui était convaincu que la vie était simple. C'était juste, tu passes des examens, tu valides tes examens,
puis
tu es bon élève, et toutes les et c'est une autoroute. Et j'ai vu l'effondrement de cet homme qui ne voulait pas voir sa maladie jusqu'au dernier moment, et c'est terrible. C'est des trucs qui sont absolument terribles. Pour ça, si tu veux, le médecin malade, j'en vois, hélas, si tu veux, c'est un des drames de vieillir, c'est que tu vas de plus en plus au cimetière accompagné des amis, déjà. Énormément. Depuis quelques temps, je pourrais faire le goemio des cimetières. Et le médecin malade, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire de dire, écoutez, j'ai vécu un truc où j'ai été très très mal. Voilà comment j'ai l'impression de m'en être sorti. Alors c'est pas une méthode, c'est pas faut pas se grandir, c'est pas un essai parce que je suis pas psychiatre ni psychanalyste, donc c'est un essai. Voilà la méthode que j'ai choisie.
Et ce que je retiens, c'est des choses finalement assez simples. En fait, une d'être les plus efficaces, c'est la présence des gens.
Oui.
Le temps.
Oui, le temps.
Et le ne temps. Pas se fier aux mauvais amis qui sont l'alcool, le cannabis.
Voilà, c'est ça. Alors moi je fume pas, mais j'ai connu l'alcool. Je fume pas.
Tu t'es tombé un peu dans l'alcool, c'est ça ?
Voilà, je me suis mis un peu à picoler. Et là
c'était quoi pour toi un peu picoler ?
Oh bah tu bois énormément de vin.
Ouais.
tout le temps. Et puis, tu commences à goûter au whisky le soir.
Tout
et
seul.
Tu t'aperçois que la quantité d'alcool que tu as bu dans la journée, c'est hectolytique. C'est pas possible. Et
tu dis que c'est des mauvaises amies parce que ça empêche le cerveau de se...
Ouais, tu arrêtes vite. Faut le savoir. En fait, faut savoir quand est-ce que tu tombes dedans ou tu bois tous les jours, tu bois beaucoup tous les jours, tu bois trop tous les jours, tu es bourré 2-3 fois dans la journée et c'est là où tu peux faire genre ça ne va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout.
Et c'est parce qu'en fait, il y a des lésions qui se créent dans le cerveau après
les
drames.
Ouais. Ça a été démontré maintenant par les neurosciences. Tu as véritablement une fracture cérébrale avec qui se crée.
Et c'est pour ça qu'il y a les chocs post-traumatiques.
Ouais,
aussi.
C'est ça. Et
c'est
le choc
que tu as eu toi quand tu as eu le 13 novembre.
Bah, c'est ça.
Et attends, et il y a un truc qui m'a frappé. Ton bouquin toujours là, toujours prêt, est sorti la veille.
Ouais, c'est là où tu veux.
T'es une succession de circonstances.
De alors ça m'avait quelque part arrangé parce que si tu veux faire les promos maintenant, c'est toujours des choses de pesant pour moi. Et en fait, le livre sort le 12 novembre, 13 novembre, j'annule toutes les promos. Voilà. Mais le livre c'était bien vendu, les gens avaient suivi, les 50 000 qui étaient partis, et les gens étaient contents.
Quoi. Et toi à ce moment-là, t'étais au SAMU et t'avais pas voulu aller sur les lieux parce que t'avais peur.
Parce que j'ai peur de ma mémoire traumatique, c'est-à-dire j'ai peur qu'à tout moment, si jamais il y a un truc, je sois neutralisé par. Il faut faire attention à ça. Là maintenant, je pense que je suis guéri, mais c'est quelque chose qui peut être difficile à appréhender.
Tu penses que t'es guéri? Tu penses que c'est une question que je me posais avant d'arriver. Est-ce qu'il y a une fin au processus de reconstruction?
Oui, c'est le moment où tu peux revivre avec un libre arbitre, recréer des choses et quelque part renaître. C'est là où tu peux te dire. Alors, t'oublieras jamais, on n'oublie jamais.
C'est pour ça que t'aimes pas parler de résilience.
Non,
c'est ça
là. Le mot résilience est... Je comprends.
Parce que résilience, c'est un retour à l'état initial.
Initial, et voilà. Et je crois pas. Alors, je comprends qu'ils aient eu cette idée-là, issue un petit peu des différents traités et témoignages qu'il y a eu sur les victimes de la Shoah qui étaient rentrées. Mais même eux n'ont jamais oublié. Donc, en fait, on renaît, on se transforme. On se reconstruit. On renaît.
Donc, comment on sait si on avance? Tu parles de libre arbitre. À quel niveau?
Déjà, t'arrives. Il y a des signes somatiques. Tu arrives à mieux dormir. Tu arrives à te concentrer sur autre chose et à ne pas tout le temps penser au drame. Donc, t'as une certaine liberté par rapport au drame. Tu vois.
Bon. D'accord.
Et tu arrives à faire des projets et à mener tes projets. Moi, en l'occurrence, ça a été de faire.
Et à t'enthousiasmer.
Et à t'enthousiasmer pour des projets et des trucs. Voilà.
Et si je connais quelqu'un de proche ou pas qui vit un drame très fort.
Ouais.
Quelle est la bonne attitude?
Faut être là. Faut pas donner de conseils. Faut pas dire ces phrases.
Faut pas dire ça va aller.
Ça va aller. Tu vas oublier. C'est rien. C'est la vie. Toutes ces phrases qui sont des phrases sans sens. Faut être là. Faut être présent. Et c'est des petites choses. C'est step by step. T'avances tout petit pas. Voilà. Il faut savoir cultiver le silence. Ne rien dire. Voilà. Être
tu viens, tu parles pas, mais c'est pas grave. Parce qu'on a toujours l'impression que si on parle pas, c'est.
Voilà. Okay. Voilà.
Bon, on va bientôt finir.
Super.
Tu te remets à écrire. Sur quoi t'aimerais écrire d'autre? Qu'est-ce que c'est un thème qui te fait peut-être peur, un peu
moi,
plus
non,
peur
non,
ou...
Moi, j'aimerais beaucoup avoir le talent, mais je ne l'ai pas, de faire des
romans.
Des romans, c'est plus les trucs à la Topor, tu vois, des trucs, mais j'ai pas son talent. Voilà, tu vois, irréalistes, les dadaïstes, tu vois, des trucs un peu comme ça, complètement fous. Ça, j'aimerais posséder ce talent-là, tu vois. Écrire des trucs un peu fous. Mais je vais peut-être le faire un jour.
Ouais, tu vas peut-être le faire. Hein.
Ouais, un conte pour petits et grands, tu vois, un truc comme ça. D'accord. Ça, j'aimerais bien faire ça, voilà. J'aimerais bien. Il faut rien s'interdire.
Ouais. Bah, justement, voilà. Si t'avais un, C'est une question que je pose parfois. Si t'avais un grand panneau publicitaire immense et que tu pouvais mettre un message dessus.
On y va.
On y va. Bah écoute, merci beaucoup,
merci
Patrick.
Beaucoup.
Merci. Les gens pour qui te retrouvent, bah, ton dernier livre, L'Instinct
ouais,
de vie.
Ouais, super.
Voilà.
Super.
Merci. Et, merci de m'avoir.
Merci à toi.
Salut.
Merci. Ciao.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça, ça fait plaisir. Nouvelle École revient la semaine prochaine. À lundi.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.